Chronique de confinement. Le masque et la prune. Une capsule sonore qui donne la parole aux bénévoles de prune depuis chez eux. Récit, billet d'humeur, création. Retrouve le quotidien de celles et ceux pour qui le confinement se raconte.
Bonjour à tous, bienvenue sur Prune 92FM. Il est 18h à l'heure où vous nous écoutez. Et aujourd'hui, en ce jeudi, on vous a proposé une émission sur le thème de la solidarité. Donc aujourd'hui, après la période de confinement, les différents acteurs du bassin nantais sont toujours plus actifs pour permettre aux personnes dans le besoin de vivre dignement. On va donc retrouver Kouka avec une interview du cofondateur de L'Autre Cantine, une association permettant de proposer des repas et des habits aux personnes exilées. Ensuite, vous pourrez écouter mon interview, Mathéo, de Yacine et Rems, deux co-gérants de la Maison du Peuple, un squat quartier Gralin permettant l'accueil de 60 personnes exilées et sans-abri. Enfin, nous retrouvons la chronique d'Antoine sur les albums musicaux de Solidarité. Et donc, on attaque tout de suite avec l'interview de Kouka, du cofondateur de L'Autre Cantine.
Bonjour Christophe Join, vous êtes cofondateur de L'Autre Cantine ainsi que de L'Autre Hangar. Est-ce que vous pouvez tout d'abord présenter l'association L'Autre Cantine, le contexte dans lequel cette association s'est créée et son objectif principal?
Oui, alors L'Autre Cantine, ça s'est créé le 3 juillet 2018, au moment où il y avait plus de 600 personnes exilées, donc demandeuses d'asile pour la plupart, qui habitaient, c'est un grand mot, mais en tout cas qui campaient sur le square d'Avier dans le centre-ville de Nantes, juste à côté de la place du Commerce. Et cette période estivale avait fait qu'il n'y avait pas tellement d'associations qui étaient en mesure de fournir des repas là-bas. Les Restos du Cœur l'été sont en service réduit et ils ne pouvaient pas matériellement de toute façon faire pour 600 personnes ou plus. Donc on a monté une association dont la spécialité serait l'aide alimentaire et notamment fournir des repas tout près que l'on sert aux gens directement dans la rue, avec un fonctionnement un peu particulier, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui viennent manger qui participent aussi à la préparation du repas, et ça donne une association avec beaucoup d'horizontalité, avec notamment une coprésidence à 36 ou 38 personnes, avec à peu près la moitié de personnes ayant des papiers, donc des personnes françaises, et la moitié de personnes en attente de régularisation. Donc on est vraiment sur un fonctionnement très horizontal et une prise de décision qui nous fait sortir un peu du cadre humanitaire classique, quoi.
Il me semble que j'ai lu que vous fonctionnez sans subvention. Comment ça se passe du coup au niveau du fonctionnement bénévole salarié? Est-ce que vous avez des salariés ou est-ce que uniquement la vie de l'association est assurée uniquement par les bénévoles?
Alors d'abord, plutôt que bénévole, j'aime mieux le mot militant-militante, puisque après tout on sort un peu, comme je vous l'ai dit, du cadre de l'humanitaire classique. Donc on est une association qui ne fonctionne qu'avec des dons de particuliers, c'est-à-dire que ce sont des gens de Nantes, des alentours, qui sont sensibles à ce que l'on fait et qui nous donnent de l'argent chaque mois pour que qu'on puisse continuer à faire notre activité. On a fait le choix de ne salarier personne dans l'association, notamment parce que c'est difficile sur une coprésidence à 38 personnes de savoir qui doit être salarié, qui ne doit pas l'être, et que de toute façon on a des budgets plutôt restreints. Donc voilà, notre argent va prioritairement pour l'achat de nourriture pour préparer nos repas, et du coup on a pour le moment salarié personne.
Et vous arrivez à fonctionner actuellement avec un budget mensuel d'environ combien d'euros ?
On est sur un budget qui a été beaucoup plus important pendant le confinement, puisqu'il a fallu déjà que l'on équipe nos militants de masques, il a fallu qu'on achète du gel, tout un tas de produits pour la désinfection, etc. Et on a dû passer à contre-cœur à de la vaisselle jetable pour éviter les systèmes de vaisselle où tout le monde mettait ses mains dans l'eau. Donc, on est en moyenne, pendant les 2 mois du confinement, sur un budget d'à peu près 3 000 euros par mois pour les courses, le carburant, les assurances, le matériel, voilà, à peu près 3 000 euros par mois en moyenne pendant le confinement. Et en temps normal, on est sur un budget plutôt de 2 500 euros par mois qui sont à peu près couverts chaque mois par des dons de particuliers. Donc ça va de dons de 5 euros par mois à beaucoup plus. Et ça fait qu'avec ça, on arrive chaque mois à avoir de quoi faire en moyenne en ce moment 300 repas chaque soir, samedi, dimanche compris, pour les personnes qui sont à la rue. Et on fait notre distribution alimentaire le soir à Talensac à partir de 19h. Voilà.
Concernant l'autre hangar, comment s'est fait le lien avec les ateliers Magellan qui ont mis à disposition leurs locaux pour que vous puissiez stocker de la nourriture? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'entrée en relation s'est faite?
Alors, les ateliers Magellan, c'est piloté par le Bureau d'études spatiales, qui est une association avec qui on travaille depuis longtemps, puisqu'ils font aussi des événements pendant l'été, des rencontres culturelles, etc. Donc, nous, on est partenaire de cette association-là depuis très longtemps. Et ils nous ont, par exemple, parfois prêté des véhicules, prêté des espaces de stockage. Nous, on leur a fourni des repas qu'ils pouvaient servir pendant leurs événements, etc. Donc, c'est assez naturellement qu'on a pris contact avec eux au tout début du confinement, parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas pouvoir faire d'activité pendant ce temps-là, pour leur demander de nous mettre à disposition leur hangar, qui est un hangar de 300 mètres carrés qui n'allait pas servir pendant ces 8 ou 9 semaines de confinement. Donc, ils ont accepté de nous le mettre à disposition pendant ce temps-là pour qu'on y construise une plateforme logistique, parce qu'il y avait pendant cette période aussi beaucoup plus de dons qui étaient possibles. Il y avait notamment beaucoup de restaurateurs qui avaient fait du stock de denrées alimentaires qu'ils avaient besoin de distribuer assez vite, puisque les restaurants étaient fermés. Donc voilà, on s'est servi de ce lieu-là et on y a monté une plateforme de 300 mètres carrés qui nous a permis de collecter, de redistribuer entre 5 et 6 tonnes de denrées alimentaires chaque semaine de confinement. Donc vraiment, ça veut dire que sur 8 semaines, c'est plusieurs dizaines de tonnes de nourriture qui ont transité par là. Et on orientait les redistributions vers ce que l'on a appelé les angles morts des politiques publiques, c'est-à-dire là où les politiques publiques n'allaient pas forcément chercher les gens pour leur proposer de l'aide alimentaire. Donc sur la métropole, c'est les camps de personnes roms, c'est le petit millier de personnes qui étaient en squat sur la ville de Nantes. Voilà, ce sont des gens qui sont classiquement pas dans les réseaux d'aide alimentaire, mais qui là se trouvaient comme ayant des nouveaux besoins d'aide alimentaire. Donc voilà, on a accompagné ça et on s'est aussi servi de cette plateforme pour faire une collecte de 5 000 masques en tissu, donc fait par des couturiers et des couturières de Nantes et des alentours, pour équiper ces personnes pour qui il y avait un espèce de flou sur l'approvisionnement en masques par la ville et la métropole, puisque la distribution des masques par la ville et la métropole était effectuée en fonction de la taxe d'habitation. Donc ce sont des gens qui n'y sont pas sujets. Donc on a collecté et redistribué 5 000 masques sur la métropole pour que chacun effectivement puisse avoir un masque et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette ni d'angle mort des politiques publiques.
Est-ce que votre activité de stockage et de redistribution alimentaire a continué à la fin du confinement et quelles sont vos perspectives pour cette activité-là?
Alors, cette activité-là de collecte et de redistribution de la nourriture, c'est en fait notre activité de toute l'année. Simplement, pendant cette période, en sachant qu'il y aurait des besoins beaucoup plus importants parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont tombées dans l'obligation d'aller chercher de la nourriture, ne pouvant pas se la payer. Pendant cette période-là, on a décidé de étendre cette activité à une beaucoup plus grande échelle. Et là, maintenant que l'aide alimentaire classique, je dirais, est en train de reprendre son rythme de croisière, nous, on est en train de resserrer cette activité. Et c'est-à-dire que progressivement, on est en train de fermer. On accepte les nouveaux dons directement à l'autre cantine, comme ça se faisait précédemment. Et on est en train de petit à petit clôturer cette activité qui était vraiment une activité qui était liée au confinement et à de nouveaux besoins d'aide alimentaire qui n'avaient pas vocation à perdurer puisque de toute façon, le bureau d'études spatiales et les ateliers Magellan ont vraiment besoin de récupérer leur espace. Donc là, on est en train de clôturer tranquillement cette activité-là, quoi.
Et donc, les personnes qui ont effectué des dons pendant la période de confinement, les restaurateurs et j'imagine aussi sans doute des entreprises peut-être du secteur agroalimentaire, est-ce qu'il y a une convention ou un partenariat qui a été formalisé avec de nouvelles personnes, de nouvelles structures suite à la période de confinement ?
Bien sûr, oui, ça a été vraiment l'occasion d'un très grand élan de solidarité de la part de tous les acteurs, y compris des industriels, y compris des producteurs de fruits et légumes, y compris des grossistes. Enfin, ça a vraiment été l'occasion aussi de faire connaître notre activité, puisque dans la période, les Nantais, comme traditionnellement, se sont inquiétés de savoir que tout le monde avait bien à manger et ont trouvé notre initiative intéressante et nous ont fait des dons parfois importants. Donc on va soigner ces nouveaux partenariats qui se sont créés pour encore monter en puissance au niveau de l'autre cantine sur l'aide alimentaire.
concernant la situation des personnes que vous aidez au niveau alimentaire, donc qui sont majoritairement des personnes exilées, qui sont donc arrivées en France pour fuir une situation compliquée dans leur pays d'origine, est-ce que le confinement et le déconfinement ont eu des conséquences concernant l'hébergement, les aides financières et le statut au niveau de la régularisation des papiers de ces personnes-là ?
Eh bien, en fait, pendant ces deux mois, il ne s'est rien passé, ni au niveau de l'étude des titres de séjour, ni à Paris pour l'étude des demandes d'asile, ni avec l'OFI, qui est l'administration qui s'occupe un peu de tout ça. Donc, ça a été deux mois pendant lesquels il ne s'est rien passé, rien n'a avancé. Donc là, ça reprend maintenant très, très vite. Il y a certaines personnes qui ont plusieurs dizaines de courriers qui s'étaient accumulés là où ils ont leur domiciliation. Donc, on est vraiment sur le pont pour traiter toutes les nouvelles demandes qui sont arrivées. Donc, c'est typiquement des renouvellements de sécurité sociale, et etc. Sur la question de l'hébergement à proprement parler, il y a en ce moment 650 ménages, dit la préfecture, qui sont pris en charge par le 115 et qui probablement vont en sortir dès que le gouvernement ne prolongera plus l'état d'urgence sanitaire. Donc là, la date qu'on a tous en tête, c'est le 10 juillet, puisque c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et ça veut dire, avec cette date, la reprise des expulsions. Donc on a notamment le gymnase de Talensac qui héberge une centaine de personnes qui est expulsable depuis le mois de mai. Il y a fort à parier que dès le début juillet, il y a une expulsion qui se met en place par la préfecture. Donc voilà, nous on est très très vigilants aussi sur la sortie de l'hébergement de ces 650 ménages. Ça doit représenter entre 800 et 1000 personnes qui sont en hôtel par le 115 parce qu'il y avait le confinement, mais aux yeux de la préfecture, n'ont aucune espèce de priorité pour rester là. Donc ça veut dire que dès que la préfecture va pouvoir les mettre dehors et mettre fin à la prise en charge après la fin de l'état d'urgence sanitaire, il y a fort à parier qu'on se retrouve avec plusieurs centaines de personnes qui se retrouvent à nouveau à la rue et avec toutes les conséquences que cela crée, quoi.
Concernant du coup cette fin d'état d'urgence sanitaire, comment vous envisagez de vous mobiliser et de continuer de mobiliser les gens autour des situations des personnes exilées, justement pour éviter cette arrivée massive de personnes à la rue ?
Alors nous, on s'est d'abord tourné vers la préfecture pour essayer de leur demander comment ils comptaient faire, et etc. et à quelles échéances. Bien sûr, on n'a pas eu de réponse. On a aussi pris contact avec la ville de Nantes pour. On s'était dit que c'était l'occasion de travailler à des solutions innovantes pour de l'hébergement, notamment par la mise à disposition de bâtiments vacants qui appartiennent à la ville ou à la métropole, des associations qui font de l'hébergement pour pouvoir mettre à l'abri des gens le plus rapidement possible. Et la seule réponse qui nous a été faite, c'est que ils n'étaient pour le moment pas élus, donc ils ne pouvaient pas faire cette mise à l'abri tant que de nouvelles élections n'étaient pas arrivées. Donc bon, c'est une réponse qui bien sûr nous agace et on voit bien que ça n'avance pas. Donc nous, les seules armes que l'on ait face à des personnes à la rue, c'est la réquisition de bâtiments vacants, donc c'est-à-dire concrètement, pour parler clairement, des squats. Hein. Nous, on n'a pas d'autre outil à notre disposition que de pousser la porte de bâtiments vides pour y mettre à l'abri des gens qui se trouveraient dehors, quoi.
Dernière question, comment peuvent faire les citoyennes et citoyens nantaises et des alentours qui souhaiteraient rejoindre votre association, donc l'Autre Cantine, et vous aider dans l'accompagnement des personnes exilées ?
Eh bien, on peut prendre contact avec nous soit par notre page Facebook qui s'appelle L'Autre Cantine Nantes et suivre les actualités. Pour le moment, et on ne sait pas trop jusqu'à quand, mais on essaye d'avoir un fonctionnement avec un nombre restreint de militants pour éviter les nouveaux contacts, et voilà, parce qu'on a conscience qu'on est toujours dans un contexte d'épidémie. Mais dès le début de l'été, j'espère que les conditions sanitaires seront meilleures et que les gens pourront nous rejoindre dans notre activité. Pour nous aider financièrement, il y a une cagnotte qui est en ligne sur le site Helloasso. Donc si on tape cagnotte l'autre cantine dans un moteur de recherche, on tombe dessus, et nous, ça nous est très 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 utile, parce que comme je disais au début de cet entretien, on a quand même en moyenne entre 2 500 et 3 000 € de frais fixes chaque mois. Donc on a vraiment besoin, nous, de cet argent-là, pour et on est 100% dépendant de la solidarité des Nantais, qui jusqu'à maintenant, depuis presque 24 mois, a toujours été au rendez-vous, et on a toujours pu compter sur cette solidarité-là, même quand les caisses étaient au plus bas. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur la page Facebook. Voilà.
Merci Koubka pour cette interview. Et donc, vous pourrez retrouver l'autre cantine sur Facebook, l'autre cantine Nantes.
Le masque et la prune.
Donc maintenant, on va retrouver la chronique de Antoine sur les albums de musique solidaire. Et c'est sur Prune 92 FM.
Et c'est le retour de la chronique. Joie, allégresse, petits oiseaux, masques, mais de velours. Youpi ! Et voilà, donc ça, c'était l'intro. Donc, la durée du confinement, elle s'est aussi jouée dans la musique. Alors bien que les musiciens soient directement impactés par cette crise, eh bien ça ne les a pas empêchés de se mobiliser un peu partout, en Europe, dans le monde. Et tout ce dont je vais parler, donc, c'est sorti durant les 2 derniers mois. Pour commencer, on a déjà ceux qui sortent des albums gratuits. Alors là, mon meilleur exemple, c'est les Américains de Nine Inch Nails, avec 2 albums ambient, Ghosts 5 et 6. Le premier lumineux, le second plus torturé, selon comment on se sent. Allez-y, c'est du très bon. Mais ce qu'on a vu le plus, ce sont les compilations caritatives. En Angleterre, par exemple, le label Techno House Lobster Theremin en a sorti pas moins de 3 en faveur d'organisations pour la santé mentale et les sans-abri. Et les musiciens de Bristol, eux, se sont organisés pour sortir The Ark, réunissant tous les meilleurs artistes de la ville, qu'ils soient punk, hip-hop ou folk ou quoi que ce soit, avec notamment les excellents Beak. En Italie, le milieu house s'est aussi très vite mobilisé autour du label milanais Rollover Milano. Ils ont été très vite suivis par des initiatives françaises. À Rennes, toujours dans la house, on a eu une compilation qui s'appelle tout simplement la house rennaise, c'est logique au moins. Et à l'échelle du pays, c'est toute la scène techno-hardcore qui s'est réunie au sein du projet Tech plus Care, de la bonne techno qui tabasse pour soutenir Médecins Sans Frontières. Moi perso, il y en a 2 qui m'ont vraiment bien plu. À l'opposé complet du hardcore, on a le compositeur Electronica Molecule qui a initié le projet Music for Containment. Il a invité 33 artistes français et les a incités à sortir un morceau d'ambient chacun pour réaliser un disque parfait pour s'apaiser dans cette période tendue. Le casting est vraiment balèze, il y en a qu'on n'est pas trop surpris de voir dans le registre. Il y a Ron, Étienne de Crécy, Yann Wagner, quelques petites surprises comme Rebecca Warrior, et des gens qu'on n'a pas vu dans des registres instrumentaux, qui sont plutôt des chanteurs comme Flavien Berger, Malik Djoudi, même Arthur H. Et je trouve ça très cool de les voir sortir de leur zone de confort. Dans le genre essayer un truc nouveau, j'ai surtout eu un coup de cœur pour le projet Sick Sad World. Alors cette fois, c'est la scène rock garage française qui se mobilise, sur l'initiative des excellents Rouennais We Hate You, Please Die. Excellent. Donc il y a du très beau monde, il y a du Mannequin, du Pogo Car Crash Control, Brian's Magic Tears, TH d'Afrique, Cerveau, Cathédrale, enfin bref. Toute la fine fleur du garage bleu, blanc, rouge. Mais il y a un twist. La compilation, elle n'est faite que de reprises de tubes plus ou moins honteux des années 90 et 2000. Ça commence avec le « Hey, yeah » des Outkasts. Il y a du Seal, du Britney Spears, du Kylie Minogue, du Tokyo Hotel. Il y a des reprises de « Freed from Desire », il y a « Barbie Girl », enfin... Tout ce que je détestais déjà enfant, on va se l'avouer, mais à grands coups de rock garage bien crasseux. C'est génial, bordel. Mention spéciale à cette reprise de Jean-Pascal l'Agitateur en mode punk hardcore. Mais ben, mon petit préféré, ça reste les Agamemnons, qui reprennent le thème de Fort Boyard en mode surf rock. Parce que là, non seulement c'est super drôle, mais en plus, ça sonne bien. Incroyable. Pour revenir à quelque chose de sérieux et se quitter sur quelque chose d'un peu plus grave, je mets en avant ce beau morceau du duo Inigo Montoya, ES, sorti en avril et dont les bénéfices sont reversés à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Le morceau évoque les violences conjugales qui sont allées à la hausse pendant le confinement et il sample le morceau féministe chilien Un violador en tu camino qui a eu un beau succès sur les réseaux sociaux et qui est très puissant. Et à la fin, il y a aussi un discours de Simone de Beauvoir. Donc toutes ces voix fortes qui sont renforcées avec un beat électrisant. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous ces derniers mois. Restez forts, restons solidaires et à très vite.
Merci Antoine pour ta chronique. Et on enchaîne tout de suite avec mon interview de Yacine Herems à la Maison du Peuple. L'interview a été réalisée dans la cour de ce lieu. Et c'est tout de suite sur Prune 92 FM.
Bonjour Yacine, bonjour Herems.
Salut Mathéo.
Vous êtes tous les deux co-gérants de la Maison du Peuple avec, et habitants aussi. C'est un grand bâtiment de plusieurs mètres, de plusieurs centaines de mètres carrés. Plus exactement, c'est une ancienne école appartenant au diocèse de Nantes. Vous l'occupez depuis juillet 2019. Vous décrivez vous-même ce lieu comme un centre social autogéré. En effet, vous y accueillez des personnes dans le besoin, des sans-abri et des réfugiés. Vous proposez des marchés de vêtements gratuits, une cuisine fonctionnant sur des dons de denrées alimentaires. Vous réalisez aussi des actions d'éducation populaire avec par exemple des diffusions de films, de documentaires, la mise à disposition d'une bibliothèque avec un système de prêts gratuits, des cours de français, et on reviendra sur tout ça plus tard. Tout d'abord, est-ce que vous avez envie de compléter ma description de ce lieu et nous expliquer comment se passe l'accueil de sans-abri et de réfugiés depuis le début de l'ouverture de la...
Lieu d'échange.
Compléter sur ce que tu as dit, c'est oui, on a un centre social autogéré, mais on ne fait pas que de l'accueil de personnes en difficulté, c'est une des facettes de la maison. On met aussi à disposition des salles pour tous des militants qui ont besoin de se réunir et qui n'ont pas de lieu. On essaie aussi d'avoir une activité culturelle, des expositions, ce genre de choses. Et le but de la maison, c'est d'être un lieu de passage et d'un lieu fraternel, comme je dis, pour essayer de réunir différents types de populations, c'est-à-dire les pauvres dont on fait partie et dont on accueille, les gens, des associations et des militants qui sont souvent dans un microcosme et qui restent très entre eux, les gens qui vont voir des expos aussi qui sont dans un autre microcosme. On essaie de mélanger toute cette population, ainsi que les papis et les mamies qui habitent dans le coin et qui veulent venir boire un café.
Simple citoyen.
Le but est d'avoir un lieu où on essaie de s'organiser face au système actuel.
Okay. Et un lieu de convergence de lutte aussi. Voilà.
Et vous parliez d'autres associations. Comment se passe le lien entre les autres associations qui ont peut-être des rôles complémentaires avec le vôtre ?
Obligatoirement un manque cruel de locaux. Ne serait-ce que ça. Donc effectivement, quand on a ouvert la Maison du Peuple à Doulon l'année dernière, la première Maison du Peuple avant celle-ci. On a eu beaucoup de contacts avec toutes les assos, les collectifs militants, justement pour faire leurs réunions à l'intérieur de la maison. Et c'est ce à quoi sert aussi la maison. Donc ça a été très rapide et de fil en aiguille. On est, comme je te disais, un lieu de convergence de lutte. Donc on est aussi, et on est surtout des militants. Donc on a forcément créé aussi la lutte. On a lutté ensemble. Donc voilà, ça permet ça aussi la maison. Donc ça s'est fait très très facilement.
Oui. Bah nous, on a fourni un besoin assez essentiel à beaucoup d'associations, c'est-à-dire beaucoup d'associations ou de collectifs manquaient de lieux, que ce soit des groupes de danse qui viennent de répéter ici, des groupes de musique qui manquaient de lieux, mais aussi des services d'accueil, par exemple aujourd'hui des associations comme Médecins du Monde, comme le collectif Personnes à la rue qui est sur Nantes, nous envoient du public régulièrement parce qu'on est le seul lieu d'accueil ouvert sur Nantes, qui accueille encore du monde et qui est un peu fonctionnel.
D'urgence, ouais.
D'urgence, tu vois.
Bah oui, justement, il y avait... Oui, vas-y, continue.
Du coup, on comble les besoins que... Eux, ils font le boulot de l'État depuis des années. Et ils sont vraiment au bout du rouleau. Et c'est quand même un public assez vieillissant, les associations, en tant que les militants qui sont à l'intérieur. Et nous, on a été un souffle frais, une nouvelle manière de faire, complémentaire avec eux, quoi. Du coup, ça marche très, assez bien.
Ok.
Donc pour l'instant, on attend juste tout ce qui est le milieu associatif et de la vie civile, comme dirait notre cher président. On s'entend très bien avec, on a de bonnes, très bonnes relations, on est reconnu par pas mal de monde. Là, on attend juste une reconnaissance de l'État maintenant, qui pour l'instant fait tout pour nous ignorer.
Oui, pas encore.
Parce qu'on a la maison de CE, parce qu'on n'est pas justement une structure juridique. On est un collectif humain, on n'est pas une association, on n'est pas un collectif reconnu, on n'est pas. Voilà. Dont cette marge de. D'où cette marge de manœuvre. Voilà. Okay. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais c'est quand Reins parle de souffle frais, c'est dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a d'autres méthodes déjà de fonctionnement, mais ne serait-ce que le fait qu'on habite déjà dans les lieux, dans les squats, dans les lieux de vie, on y est, et on les gère. Mais c'est surtout. Effectivement, c'est en grande partie dû à ça. Okay. Voilà. Et du coup, on n'est pas un collectif.
Ouais,
enfin, on n'est pas une association par mois.
Justement, parce que j'avais vu ça, il y avait une charte qui avait été passée à Paris entre des acteurs immobiliers et la mairie pour permettre aux associations justement d'occuper les.
Ouais, ça date de l'année dernière.
Des logements inoccupés.
Ouais. Nous, sur le tout Paris. Hein.
Ouais. Nous, on s'est servi de cet axe de défense. On a soumis ça à notre avocat. Ils s'en sont servi pour notre défense. Même lors de la première du premier procès à Doudon aussi, je vous en prie.
On
n'avait pas servi à grand chose. Après, ça c'est une initiative que nous on a trouvé bien. Mais après, ce qui tombe sous le sens, en fait, beaucoup d'entreprises ont des lieux inoccupés, tu vois, en attente de travaux. Et avoir des squatteurs, des procédures d'expulsion, tout ça, ça coûte des sous. Tu vois. Et s'arranger avec des gens comme nous ou avec des associations pour tenir les lieux et les rendre utiles, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Nous, on trouvait que c'était une bonne initiative de Paris, mais qui demande à se concrétiser un peu partout en France, quoi. Et ça, c'est encore pas fait.
Et du coup, là, dans votre cas, il faudrait que ça soit élargi au collectif du fait que...
Mais c'est le bon état d'esprit. Quand il dit ça, c'est le bon état d'esprit, quoi. Ah. C'est que c'est des lignes qui bougent, quoi. Ouais. C'est pas, tout n'est pas là sur la table disponible. On sait bien comment ça fonctionne. C'est compliqué de tout mettre en place. Mais là, les lignes bougent depuis un certain temps. Ouais. Et c'est l'état d'esprit, quoi. Ils ont réussi à se mettre autour d'une table, à travailler, à réfléchir pour être le plus efficace possible. Puis il y a des solutions qui en sortent. Voilà. Donc nous aussi, on est là-dedans. Et c'est pour ça qu'on est encore là, quoi. On est dans cette forme de négociation, d'état d'esprit. On milite, mais effectivement, il faut que si on veut être efficace dans l'émission de la Maison du Peuple, il faut qu'on soit plusieurs acteurs autour de la table.
Oui, parce que pourtant, vous comblez un peu leurs failles.
Il y a une insuffisance. C'est
une insuffisance.
La situation s'aggrave sur le territoire. Nous, on le voit tout le temps. On a de plus en plus de migrants. On a de plus en plus de populations françaises qui se retrouvent à la rue. Il y a de plus en plus de gens à la rue et c'est une situation qu'il va falloir gérer et qu'il va falloir trouver de nouvelles méthodes pour les gérer. Nous, on fait partie des nouvelles méthodes, on n'est pas la seule. Ce genre d'initiative que tu as parlé, pour moi, c'est des nouvelles méthodes pour appréhender le problème qui arrive. Le nombre de pauvres à la rue augmente vraiment et ça devient un peu long, quoi.
Par rapport à ça, justement, comment se passent vos relations avec la mairie de Nantes, du coup, concrètement ?
Pourquoi tu parles des sujets qui fâchent? Non, c'est pas... Nous, c'est pareil, hein, on n'est pas... Si tu veux, depuis le début de Doulon, on interpelle de toute façon à chaque fois la mairie sur la réquisition des bâtiments publics, hein, parce qu'on alerte de toute façon depuis ce temps-là sur le problème dont parlait Rennes, c'est l'augmentation de toute façon de la grande précarité, quoi. Et le flux migratoire, toutes ces choses-là, quoi. Donc... On a toujours eu faim de non recevoir, assez muet. Aujourd'hui, je te dis, il y a des lignes qui bougent, tout le monde discute, même au niveau de la préfecture, quoi. Département, préfecture, collectif, voilà, il manque qu'une seule personne dans la boucle et c'est la mairie. Donc ils étaient en train de réfléchir sur la situation actuelle parce que c'est 650 personnes qui sont hébergées dans les hôtels, tu vois, donc 400 depuis la crise. Et il y a 200 personnes en attente sur les listes. Donc ça te fait à peu près 1000 personnes, là, tu vois.
Okay.
Mais le jour où la préfecture, le 115, va dire « Nous, on ne prend plus en charge ces gens-là, on ne les héberge plus dû au confinement, on arrête de payer les chambres d'hôtel », tous ces gens-là vont être dehors. Donc la mairie pense à ces trucs-là. Mais sans débloquer de moyens, sans vouloir avancer, il y a eu une réunion téléphonique avec le collectif Personnes à la rue la semaine dernière où la mairie déclare qu'elle ne peut rien faire. Alors que tout le monde, là, en ce moment, va faire des choses. Le département, la préfecture, je te dis, des choses, voilà. Ouais. Même pour nous, la maison, ne serait-ce que la préfecture, voilà. Monsieur Darcourt, voilà. On entame des choses, quoi. Ça avance. Et il n'y a qu'une seule personne qui n'avance pas.
Après, on se retrouve avec le même jeu de balle qu'on connaît depuis longtemps, où la mairie renvoie la balle à la préfecture renvoie la balle.
Je vais te dire,
on a réussi à faire... Comment ça peut-être réussir à faire bouger les lignes de la préfecture, puisque... Le fait est qu'on a pris ce bâtiment, nous, c'est un bâtiment qui appartient au diocèse, et que ça a été compliqué, mais on a réussi à quand même bien travailler ensemble et à bien s'entendre. On a prouvé notre efficacité et notre utilité au diocèse. Et le diocèse est quand même un acteur assez important de la ville de Nantes, voilà, ce qui a amené du poids à la Maison du Peuple dans nos négociations avec le préfet et ainsi de suite.
Oui, justement, là, le lieu, il devait être revendu à un acteur économique, des Montpelliérains, qui devait construire un centre commercial et des logements.
Un consortium promoteurs. Mais qui sont toujours là, mais la galerie, le projet immobilier sera abandonné, tel quel. Donc c'est pour ça que ça nous laisse du temps avant qu'il y ait d'autres projets ici même.
Oui, parce qu'ils devaient construire plus de logements sociaux apparemment.
Voilà, c'est ça, on lui demandait plus de création de logements sociaux et ça ne les intéressait pas. Donc ils vont sûrement proposer, on sait qu'on a un petit peu de temps. Mais juste pour te dire, attends, juste une parenthèse sur la mairie. Voilà, le dernier contact qu'on a eu avec Madame Vassal, donc de la mairie de Nantes, c'est une lettre qui nous est parvenue là à la Maison du Peuple, même pas cachetée par les services de la mairie. C'est-à-dire qu'on a dû payer une taxe, parce qu'elle n'était pas timbrée, elle n'était pas affranchie la lettre. Pour nous dire dans cette lettre que c'était l'État qui prenait en charge les gens en grande précarité, qui savaient qu'on existait mais qui ne pouvaient rien faire pour nous. Donc voilà, ça c'est le dernier échange qu'on a avec la mairie. Ils sont même pas foutus d'envoyer une lettre timbrée à des gens pour les prévenir qu'ils vont rien faire pour eux.
Bon, après c'est plein de petits détails qui fait qu'on nous traite encore un peu comme des sauvages. Tu vois, je vais te donner un exemple. On a une vitre qui s'est cassée à cause du vent il y a une semaine. Les policiers sont passés pour nous dire que la vitre était cassée. On est allé la nettoyer et
sécuriser
les lieux. Ils étaient tellement affolés qu'une vitre était tombée et qu'en plus ça venait de la Maison du Peuple. Ils nous ont envoyé les pompiers, les services de la mairie. Ouais. Ils sont arrivés en trombe comme s'il y avait un feu. Quoi. Quand ils sont arrivés, on avait tout nettoyé, tout était propre.
Donc après, il y en a qui vont nous dire vous n'avez pas à vous plaindre, vous avez toute l'attention qu'il faut. Ils sont attentionnés. Hein, voilà.
Bon, après, pour ce qui est du lieu, juste pour finir là-dessus, on sait qu'il va y avoir des travaux un jour ou un autre. Ça va être dans le processus de gentrification de la ville. On est dans le quartier Gralin. Mais nous, on demande juste à rester ici le temps que les travaux commencent. Tu vois, et le temps d'essayer de pousser la mairie, justement, à prendre ses responsabilités et nous donner un bâtiment.
D'avoir d'autres lieux.
Et de toute façon, c'est une nécessité qu'il y ait plusieurs lieux d'ouvert, de toute façon, avec tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est une vraie décision aujourd'hui. C'est dans ce sens-là, de toute façon, que ça travaille avec les collectifs et tout ça. C'est que voilà, ça doit venir de la part du maire. La réquisition des bâtiments publics, c'est une demande au préfet, mais ça vient du maire. Et moi j'ai bien compris, c'est le maire qui oblige quelque part le préfet à le faire. Mais c'est elle qui doit engager cette procédure-là, en tout cas. Et c'est une nécessité au-delà de la maison du peuple. Mais comme le dit un, de toute façon, ils savent bien, aujourd'hui on est utile, on a démontré que c'était une autre solution, c'était une solution alternative et viable, et que là, une des demandes, c'est par exemple d'avoir des travailleurs sociaux à l'intérieur, comme des assistantes sociales, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est là aussi où il faut qu'on devienne beaucoup plus efficace, et ils sont dans cet état d'esprit-là, quoi.
Et du coup, j'avais vu que vous faisiez des ateliers pour débattre autour d'autres thèmes comme l'autonomie paysanne et la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous faites aussi des assemblées générales ouvertes à tous, aux étudiants, aux associations?
On avait mis en place, avant le confinement, des assemblées générales tous les mardis, ouvertes à tout le monde afin de s'organiser. On en avait une le vendredi, plus axée aux gens qui fréquentent la Maison du Peuple. Ouverte aussi à tout le monde, à toutes les personnes intéressées. On a eu le confinement a mis beaucoup de bémols à tout ça.
Et puis on s'est arrêté comme le pays, on s'est arrêté sur les grèves de décembre.
Du coup, là,
on avait monté l'AG de convergence. Ouais. Donc là, on avait une grosse AG où là, effectivement, on préparait on discutait de la grève générale du 5 décembre. Il y avait les syndicats, donc voilà, on en est tous restés là, quoi. De toute façon. Là aujourd'hui, même au-delà de l'histoire du confinement, de la Maison du Peuple, la mobilisation, voilà, on en est resté sur la réforme des retraites. Donc il y a toujours cette question-là qui est toujours posée. Donc on va réouvrir les AG l'activité de la maison à ce niveau-là.
Vous avez déjà des convergences, je ne sais pas, d'étudiants ou d'autres associations déjà qui sont...
Étudiants, ils ont toujours été là.
Les étudiants ont toujours été là. Été en lien avec nous et fréquenté la maison. On a Extinction et Rebellion qui ont été ici souvent parce qu'ils étaient en manque de locaux pendant longtemps. Du coup, on leur a fourni des autos aussi pendant longtemps.
Alternativa, Nantes en commun quand ils se sont lancés dans les municipales.
Okay.
Parce qu'on est proche.
Mais
on
sans
est proches.
Forcément faire de... Ouais. C'est pas parce qu'on a accueilli ces gens qu'on est forcément d'accord avec leurs idées, tu vois.
Dans tous les cas, c'est pour débattre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Pour se mettre tous ensemble, tu vois.
Ouais.
Je suis d'accord avec pas mal de choses sur les gens des différents mouvements, tu vois, mais... Nous, on est assez ouverts sur l'accueil de tout le monde.
La Maison du Peuple sert à ça aussi, quoi. C'est un lieu d'échange, hein. Comme on disait, c'est n'importe quel citoyen peut venir juste échanger, boire un café, quoi.
Ouais.
Donc encore plus les gens qui ont des positions arrêtées sur plein de sujets, non, au contraire. Et quand tu parlais tout à l'heure des débats, des choses comme ça, des conférences, des documentaires, voilà, on tournait surtout là-dessus à Doulon, ça tournait beaucoup, quoi. Ben, c'est dans cet état d'esprit-là, quoi. C'est voilà, on voit un documentaire, on en débat, on est là pour échanger des idées, et puis surtout penser aux alternatives pour avancer, quoi.
Pour ce qui est des documentaires, on a mis une petite pause en ce moment parce qu'on n'a plus le matériel sous la main, parce qu'on avait un rétroprojecteur qui nous servait à le faire. Mais on ne l'a plus. Du coup, on va remettre ça en place. On a récupéré un petit matériel pour faire ça tourner sur télé. Le but, c'est de récupérer un peu de matériel pour relancer toutes ces activités. Et pour ce qui est des réunions, là, on y réfléchit. Mais je pense que dans le mois prochain, on va essayer de relancer les réunions. Là, on attend un peu pour voir. On essaie de contacter un peu les différents collectifs, voir comment ça se passe.
Ouais, du coup, justement, on disait tout à l'heure que vous fonctionnez beaucoup sur les dons, notamment du coup dans l'alimentaire.
Que sur les dons.
Que ce soit pour le mobilier, tout. Et donc, comment on fait pour vous contacter en tant qu'association, en tant que quand on a envie de devenir bénévole ou même pour faire des dons, du coup?
Nous, on a une page Facebook où on peut nous contacter par message. Et sur la page Facebook, il y a un numéro de téléphone où je vous répondrai personnellement. Et après, de là, on va vous aiguiller, mais vous pouvez aussi
venir
directement ici. Il y a toujours quelqu'un, il y a une petite caisse qui traîne pour mettre un euro si quelqu'un a envie.
Donner un coup de main.
On est toujours ouvert. Et après, comme je t'ai dit, nous, on n'a pas d'organisation fixe et précise. On évolue suivant les besoins et suivant les mondes qu'on a sur place. Du coup, pour les bénévoles, j'ai quelques demandes depuis la fin du confinement. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de se rendre utile. Et du coup, on est en train de mettre en place un système pour les inclure dans la maison. Mais après, les gens peuvent déjà venir nous rencontrer.
Oui.
Avant de venir donner un coup de main, c'est déjà bien de venir boire un café ici, passer du temps. C'est déjà la première étape pour moi.
Oui. Et du coup, justement aussi, là, on est dans la cour de la Maison du Peuple. On voit pas. On a été tout à l'heure se balader dans les différentes pièces. Et du coup, il y a une exposition de graphes qui est pour l'instant pas encore réouverte, mais qui va réouvrir dans les...
C'est ça.
dans les jours à venir, cette semaine à venir? Est-ce que Yacine, par exemple, t'as envie de...
Ouais, bah, donc c'était, les, c'était l'exposition de Grave, donc le principe, c'est donc un collectif de La Roche-sur-Yon, Ars Muralis, qui a pour principe d'occuper des bâtiments désaffectés, d'appeler plein d'artistes d'un peu partout et de se réapproprier le lieu. Donc quand on est arrivé, nous, ici, on nous a vite contacté pour ça les brancher de venir faire ça là, quoi. Donc on a tout de suite foncé, quoi. Donc il y a une cinquantaine d'artistes qui sont venus ici redécorer entièrement la maison. Donc il y a des graffeurs, il y a des plasticiens, il y a des gens qui font de la sculpture. Voilà, il y a un petit théâtre. Donc voilà, elle a ouvert le 9 mars. Sachant que le 17, c'était le confinement total, donc ça n'a pas duré longtemps. Mais voilà, on va la réouvrir, bien sûr, avec sous une autre forme, hein, forcément. Les œuvres, elles n'ont pas bougé, mais sous une autre forme, avec tout ce qui se passe. Mais oui, là, on est en train de réfléchir à la meilleure solution, mais ça va bientôt réouvrir, donc voilà.
C'est juste question de trouver des formes d'organisation adéquates aux distanciations sociales. Parce que avant, quand on a ouvert l'expo, on avait un circuit de visite. On laissait les gens libres de faire la visite et de se balader dans la maison. Là, on va plus, on se pense plus à faire un système de guide.
Guider.
Quelqu'un qui arrive, on le fait visiter. S'il y a d'autres personnes, elles attendront que le guide revienne ou qu'on aura de guide. Ouais. Enfin, c'est des détails à régler, mais on va plus vers cette organisation.
On récupère,
pour l'instant, on garde encore les mesures qu'on avait prises lors du corona. Ouais. Ce qui fait qu'on n'a pas eu de cas de corona ici. Et du coup, pour l'instant, vu qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer, on garde ces mesures. En place.
Ok.
Et voilà.
Bah, ça roule. Est-ce que vous avez envie d'ajouter d'autres choses sur le lieu, sur ce que vous faites?
C'est ouvert, quoi, et que n'hésitez pas à venir voir ce que c'est, venir voir l'expo, venir discuter, prendre un café. Faut pas hésiter à venir.
Voilà, même si on est les gérants de la Maison du Peuple, c'est juste pour dire que ça s'appelle la Maison du Peuple, c'est à tout le monde, c'est à vous de venir vous en saisir.
Oui.
Et donner vie. Et quand je te parle d'un exemple des bénévoles, nous on a des idées pour faire travailler les gens, mais c'est pas notre fonction aussi. Nous on attend aussi que les gens, tu vois, dans le terme autogéré, on attend aussi que les gens viennent ici proposer des trucs. Mm. Tu vois, là on a quelqu'un qui est venu proposer des cours de taekwondo. Chacun peut être libre de venir s'exprimer dans la Maison du Peuple. Nous, on est juste garant que ça se passe bien pour tout le monde et que tout le monde ait accès à la maison.
Ok,
voilà,
ça marche. Bon, bah merci à vous deux.
Merci à toi, Mathéo.
Et bon,
à bientôt.
À bientôt.
Donc, je remercie très fortement Yacine et Rems pour cette interview. Vous pouvez les contacter sur Facebook ou par mail sur le Facebook de la Maison du Peuple Nantes. Et pour quelques dons que ce soit, des denrées alimentaires, des livres, du mobilier ou même des instruments de musique, qu'importe. Et l'émission touche à sa fin. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette émission, en particulier Constance Bénard qui a fait un travail de titan pour réaliser cette émission. Et on remercie également toutes les personnes qui donnent leur temps pour aider les autres, notamment dans le bassin nantais. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur prune.net dans la masque et la prune. Et on vous souhaite une bonne soirée sur Prune 92 FM.
Le masque et la prune. C'est une capsule sonore à retrouver sur Prune chaque jour à 18h. Tant qu'il y aura des masques.